Pour commencer cette émission, deux clins d'œil culturels sur la vie et l'œuvre. Le premier est une exposition, celle de l'artiste contemporain Christian Boltanski au Centre Pompidou. Rétrospective impressionnante que l'on doit à Bernard Blisten, où l'on retrouve les œuvres les plus fascinantes, perturbantes aussi, de Christian Boltanski. Toujours ses ampoules nues au bout de leur fil, ses boîtes de biscuits effrayantes qui témoignent de la petite vie, comme ça, mise en boîte de Suisse mort, anonymisé. Il n'y a d'ailleurs jamais de star dans l'œuvre de Boltanski, seulement lui et des anonymes. Les clochettes aussi qui s'agitent au vent dans le désert chilien et le petit tiré entre la date de naissance et de mort de tant d'individus. C'est quoi une vie, sinon se tirer, dans toute sa brièveté de petit tiré et son immensité de long tiré. Il y a du Modiano chez Boltanski, la mémoire et l'oubli, les mythologies personnelles et collectives, la vie et l'œuvre, ou même la vie dans l'œuvre, la vie-œuvre. Christian Boltanski a-t-il fait son temps ? Faire son temps, c'est le nom de cette exposition impressionnante. Des cœurs qui battent encore, des baleines qui hurlent en Patagonie et l'homme de Tasmanie qui a acheté la vie de Boltanski. S'il y a une exposition d'art contemporain à voir à Paris cette saison, c'est bien celle-ci. Faire son temps de Christian Boltanski jusqu'au 16 mars au Centre Pompidou. Et vous pouvez d'ailleurs écouter en podcast son entretien dans les matins de France Culture avec Guillaume Erner. C'était ce jeudi et c'était superbe. Et puis, second clin d'œil culturel ce soir sur la vie et l'œuvre, un film dont on parle moins que de la nouvelle accusation de viol dont son réalisateur est désormais soupçonné, la cinquième quand même, J'accuse de Roman Polanski. Et je dois dire que ce film m'a ému, bouleversé même. C'est l'histoire de France, dans ce qu'elle a de plus grand, le souci de la vérité du colonel Picard notamment, et de plus terrible, le mensonge d'État et l'armée qui privilégie l'institution sur la vérité. C'est cela la France, sa grandeur et sa faiblesse, Dreyfus, Zola et Picard contre la bassesse des hommes. C'est du cinéma, mais c'est aussi la vie et l'œuvre, et c'est cela aussi la France. Pouvoir aimer un film formidable au demeurant et dénoncer en même temps, dénoncer son réalisateur quand son comportement fut possiblement criminel. On peut aimer un film et ajouter à la fin de notre critique seulement ces quelques mots terribles. Par ailleurs, Roman Polanski fait l'objet d'une nouvelle accusation de viol. Roch-Olivier Maistre, vous êtes le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous avez vu, vous aussi, ce film?
Vous avez tout dit, Frédéric Martel est très, très bien dit. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est la figure du colonel Picard. C'est de prendre l'affaire à travers le prisme du colonel Picard.
Jean Dujardin, remarquable.
Qui est un officier supérieur promis à une très brillante carrière au moment où il est nommé à la tête des services de renseignement français. Il est typique du corps militaire de l'époque. Le souvenir de la défaite de 70, l'obsession de l'Alsace-Lorraine, l'obsession de la question allemande. Il est antisémite et pourtant la conscience prend le dessus et permet à la justice de se frayer un chemin. C'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que du coup on n'a pas une approche manichéenne du sujet, c'est un éclairage nouveau. J'ai trouvé le film d'un très grand classicisme dans sa réalisation et c'est un parti pris pour moi. Bien évidemment, pour des raisons que vous savez, j'ai trouvé les comédiens français exceptionnels. On a la chance d'avoir une troupe qui est depuis quelques années à un niveau absolument remarquable. Ils tiennent tous des rôles de façon exemplaire. Et puis ce sujet, moi c'est un sujet qui m'a beaucoup hanté pendant de nombreuses années et qui est très présent en moi pour différentes raisons. Ce sujet, je trouve, fait écho à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et je trouve que face aux montées des intolérances, se souvenir de ce qu'a été cette affaire pour notre pays, c'est un moment de bascule dans l'histoire de la République, il y a un avant, il y a un après. Se souvenir de cela, se souvenir de ce à quoi l'intolérance peut conduire, c'est très important. La mémoire des hommes est très courte.
Roch-Olivier Maistre, notre invité ce soir, il est 18h18 sur France Culture. L'actualité des industries culturelles et du numérique pour commencer cette émission, première séquence, premier segment avec donc notre invité et nos chroniqueurs. Ce soir, Sandrine Cassini du journal Le Monde, Emmanuel Paquette de L'Express et Zoé Sfès de France Culture. J'aimerais commencer cet entretien par une petite anecdote, Roch-Olivier Maistre. Cette semaine, lorsque nous avons préparé ensemble cette émission, j'ai pris un taxi pour venir au CSA, ce qui m'arrive rarement. J'étais très en retard ce jour-là, il faut bien le dire. Et en donnant l'adresse au chauffeur de taxi, je lui ai dit que je vais au CSA. Il m'a demandé c'est quoi le CSA. Alors j'ai tenté de lui expliquer, c'est pas très simple. Et tout à coup, il m'a dit « Ah oui !» C'est le mec qui a voulu condamner Cyril Hanouna. Et c'est authentique, c'est ce qui s'est passé. Alors ma première question, est-ce que dans votre vie, quand vous étiez petit comme ça, votre rêve, c'était un jour de devenir célèbre comme l'homme qui a condamné Cyril Hanouna?
J'ai l'impression que si je vous répondais oui, vous seriez surpris. Donc je vais vous répondre...
D'abord, c'est pas vous qui l'avez condamné.
Voilà, c'est pas moi qui l'ai condamné d'abord, mais ça, ce serait une pirouette. Non, je vais vous répondre...
Au contraire, vous allez lui donner de l'argent.
Mes rêves étaient probablement ailleurs et, comme dit si bien la chanson, tant qu'à faire, j'aurais préféré être un artiste.
Sandrine Cassini ?
Oui, en fait, vous l'avez condamné, mais en même temps, vous avez été désavoué cette semaine par le Conseil d'État qui vous a condamné à verser 1,1 million d'euros
Merci de le rappeler, c'est cruel pour un magistrat de la Cour
des comptes. C'est cruel, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, on va payer, j'imagine, c'est normal. Est-ce à dire que condamner pour des propos, pour des émissions qui dérapent, c'est compliqué aujourd'hui pour le CSA?
Alors, petit rappel des faits d'abord, vous l'avez dit, le Conseil supérieur a sanctionné à 3 reprises la chaîne C8 au titre de l'émission de Cyril Hanouna. La chaîne s'est portée... devant le Conseil d'État contre ces décisions. Le Conseil en a validé 2, on a annulé une. Et du coup, l'annulation entraînait de façon quasi automatique la possibilité pour la chaîne d'engager un contentieux indemnitaire, ce qu'elle a fait. Et le Conseil d'État lui a donné en partie raison, elle demandait beaucoup plus d'argent, mais prononçait une décision à hauteur de 1,1 million. Et donc, voilà, c'est une décision qui est définitive, qui s'impose à nous. Je suis moi-même magistrat, donc je ne vais pas commencer à discuter des décisions de justice. Elle s'impose à nous et nous allons devoir régler cette dépense. Oui, il y a une part de risque dans l'action publique, toujours, quelles que soient les précautions qu'on prend. Il y a aussi une part de risque dans l'action privée, d'ailleurs. Et quelles que soient les sécurités qu'on prenne, il peut toujours y avoir des évolutions de la
jurisprudence. Mais est-ce qu'on sent au Conseil d'État une sorte de... C'était déjà arrivé avec N23, la chaîne dite de la diversité. Est-ce que le Conseil d'État n'est pas un peu en guerre contre le CSA, manière de dire qu'il n'aime pas tellement, finalement, ces autorités administratives indépendantes?
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Il n'y a pas tant d'annulations que ça, mais c'est vrai qu'il est très vigilant. Pourquoi? Parce qu'on est sur le terrain des libertés publiques. Mmh. Donc, le juge... administratif, en l'occurrence, se fait gardien des libertés publiques. On aura l'occasion, je pense, de parler d'Éric Zemmour. On a des décisions très récentes du Conseil d'État qui sont intéressantes à regarder de ce point de vue-là.
Mais il y a un truc étrange quand même, c'est que vous devez aujourd'hui effectivement débourser cet argent. Et pourtant, sur les 2 autres sanctions, où pour le coup, vous avez reçu de l'argent. Enfin, l'argent a été déboursé par la chaîne, elle a été versée au CNC.
Elle est versée au
CNC.
Comment
c'est possible,
c'est
justement
paradoxe.
Vous n'avez pas de trésorerie.
C'est la loi qui prévoit les choses comme ça. Effectivement, quand on prononce des amendes, le produit de cette amende va au bénéfice du CNC, donc va alimenter le soutien du financement de la création. À l'inverse, quand on est condamné, ce qui est le cas, puisqu'on a le statut d'autorité publique indépendante, c'est sur notre budget qu'il faut payer cette dépense.
Vous n'avez pas le droit à l'erreur, du coup.
Ça incite à la prudence et à la vigilance.
Emmanuel Paquette.
Alors justement, Michel Boyon, votre prédécesseur au CSA... avant Olivier Schramek, a tweeté que l'indemnité qui sera prélevée sur votre budget, et plus sur celui de l'État, est due, en fait, est une conséquence prévisible de l'attribution de la personnalité morale au CSA, une réforme qui n'était vraiment pas nécessaire. Alors, est-ce que vous partagez le point de vue de Michel Boyon contre celui d'Olivier Schramek?
Écoutez, bon, la réforme du statut de l'autorité est intervenue il y a 3 ans maintenant, elle est acquise, on va pas revenir dessus. La conséquence budgétaire, c'est vrai que c'est l'institution qui doit supporter en direct la dépense. Il n'empêche que notre budget est essentiellement composé de la masse salariale des agents du CSA, des frais de fonctionnement de l'institution et notamment des frais immobiliers pour notre occupation de la tour Mirabeau. Et donc, il faudra très vraisemblablement qu'on demande un abondement. Dans les budgets de l'État, il y a toujours des provisions pour risques contentieux. Et donc, nous solliciterons un concours pour faire face à cette dépense.
Toujours dans l'actualité de la semaine, du moment, on va revenir sur Alain Finkielkraut, mais juste avant, Éric Zemmour, il y a beaucoup de sujets ce soir, Sandrine Cassini.
Oui, justement, vous parlez de cette prudence à laquelle vous deviez vous tenir. Sur Éric Zemmour, depuis qu'il est sur C8, on attendait beaucoup du CSA qui s'exprime par rapport aux différentes sorties, différents dérapages, vous ne l'avez pas fait. On attend, pourquoi?
Alors, on le Tout simplement parce que la loi nous interdit d'évoquer les affaires sur lesquelles nous sommes en instruction. Donc on est saisi de plusieurs interventions d'Éric Zemmour sur CNews.
Mais quelle est votre marge de manœuvre là-dessus?
Et donc nous allons statuer très prochainement dessus. Et une fois qu'on aura statué, on pourra s'exprimer. On a statué il y a peu de temps, il y a une quinzaine de jours, sur la diffusion en direct du discours d'Éric Zemmour à la Convention de la droite sur LCI, sur lequel on a pris une décision qui est quand même très forte, puisque pour la première fois, le CSA a saisi lui-même le procureur de la République sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale, en considérant que...
Mais l'enquête était déjà ouverte.
Certes, mais le fait que le CSA transmette lui-même des pièces à l'appui de la démarche du procureur, c'est pas une petite approche. Et on voulait à cette occasion rappeler que l'auteur des propos peut lui aussi engager sa responsabilité au titre de la loi de 1881.
Mais au-delà du cas Zemmour, sans vous demander d'en parler à ce stade de la procédure, plus globalement sur la télé du clash, disons, le fait des émissions comme Face à l'info, d'ailleurs de Christine Kelly, ancienne membre du CSA, le clash comme ligne éditoriale, une sorte de mini Fox News à la française, pour reprendre le titre d'un article justement de Sandrine Cassini, dans Le Monde, comment vous sentez cette évolution?
Je sens qu'on a un paysage des chaînes d'information contenu très singulier, avec trois chaînes privées qui sont en concurrence frontale.
Là, vous parlez pour les chaînes d'actu, BFM,
plus une chaîne
LCI, CNews.
Plus une chaîne de service public, voire deux si on compte France 24. Donc c'est un paysage très singulier d'avoir cette concurrence frontale. Sur les chaînes privées qui agissent sur le même marché publicitaire, comme vous le savez, il n'y a qu'une seule chaîne qui gagne de l'argent, qui est BFM.
2%
les deux autres perdent de l'argent et sont donc en concurrence et dans une course frénétique. J'ai regardé par curiosité la semaine dernière, la plupart des signalements qui nous sont faits de clash, pour reprendre votre expression, concernent LCI et CNews. Donc c'est bien le signe que ces deux chaînes qui sont en concurrence frontale et qui perdent de l'argent sont dans une stratégie de rechercher mais le show.
Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu aussi responsable, et la loi française, puisque aux États-Unis il y a Fox News, mais Fox News au fond c'est que des républicains, il y a aussi des chaînes que démocrates. Là en France, le CSA veille à ce qu'il y ait du pluralisme, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une chaîne qui ne serait que de droite ou que de gauche, mais d'une certaine manière en imposant cet équilibre et ce pluralisme, on ne crée pas Fox News, mais le clash finalement, la droite et la gauche, enfin en tout cas les plus... Alors BHL versus Zemmour, mais aussi Caroline Devas versus Finkielkraut, on en parlera tout à l'heure. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu enfanté des monstres?
Non, vraiment, je n'ai pas le sentiment que ce soit la responsabilité du CSA en la matière. Ce que je crois, une fois encore, c'est que cette situation de concurrence frontale qui crée cette situation. Vous avez raison de souligner que le modèle français a une singularité, c'est que dès le départ, dès la loi de 86, le pluralisme est érigé en principe. C'est un principe de valeur constitutionnelle. Et donc toutes ces chaînes doivent respecter ce pluralisme. Et pour CNews, c'est d'ailleurs un sujet qui sera intéressant. On va avoir l'occasion de les auditionner très prochainement, de s'assurer de la façon dont, nonobstant l'émission à laquelle vous venez de faire allusion, elles vont respecter le principe du pluralisme. Si ce n'est pas le cas, le CSA sera...
Vous avez déjà rendu des décisions montrant qu'ils respectaient le pluralisme. Et d'ailleurs, à l'antenne, il y a des personnalités de tous bords. Donc... On peut dire que factuellement, il le respecte, mais est-ce que justement, ce n'est pas une façon de le contourner? Et est-ce que le CSA a un rôle à jouer? Est-ce que c'est souhaitable d'avoir cette télé du clash qui se développe avec des propos un peu partout?
Écoutez, le cadre pour nous, il est assez simple. On a un principe dans ce pays qui est la liberté d'expression. C'est un principe vraiment fondamental.
Article 1er de la loi de 86.
C'est l'article 1er de la loi de 86 qui est d'abord...
Vous avez contribué notamment
de liberté
à écrire, parce que vous étiez jeune conseiller, je crois, de...
Exactement.
De François Léotard, ministre de la Culture à l'époque.
C'est un principe qui a une valeur constitutionnelle, qui renvoie à l'article 11 de la Déclaration de 1789, qui est magnifique, qui dit que cette liberté, c'est le bien le plus précieux de l'homme. C'est une formule vraiment très, très belle. Elle est très protégée par le juge, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit la Cour de cassation, ou que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais vous en citer un exemple à propos de Zemmour, qui est quand même assez intéressant. On a fait une mise en demeure sur RTL il y a 2 ans, qui s'est pourvue devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a annulé notre mise en demeure, précisément en disant, certes, dans vos conventions, vous soulignez que la cohésion sociale doit être préservée, mais il y a un principe supérieur, qui est la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression peut même autoriser à porter des discours contraires aux valeurs de la République. C'est quand même un considérant qui est très fort. Et donc nous, on est obligé bien évidemment à la fois de respecter la loi et la décision du juge. En regard de cette liberté, il y a d'autres principes qui sont posés par le législateur. Et il faut toujours trouver la juste ligne de crête dans les décisions qu'on est amené à prendre.
Emmanuel Paquette.
Justement, dans l'affaire Finkielkraut, qui avait dit donc sur LCI, je dis aux hommes de violer les femmes, Depuis, il y a eu beaucoup de
réactions. Il n'a pas dit exactement ça. C'était un peu plus...
Si.
Non, mais...
C'est un long...
C'était ironique, comme lui-même le dit aujourd'hui, puisqu'il a dit une réaction par l'absurde à des propos qui lui étaient tenus. Et aujourd'hui, on voit que le PS a saisi le CSA, que donc la France Insoumise...
Il n'y a pas que lui.
Il y a aussi une pétition à France Culture, etc.
Voilà, une pétition pour retirer... Olivier
Mestre. Rien que dans la journée de vendredi, on a dû enregistrer de l'ordre de 3800 saisines. C'est plus que pour Zemmour sur Bugeaud.
Et donc là, du coup, entre liberté d'expression et... parce que là, en l'occurrence,
je vais faire la même réponse qu'à vous tout à l'heure. Je ne peux pas m'exprimer puisque dorénavant on est saisi. Donc on va instruire, on va être amené à se prononcer. Ce que je veux dire quand même, et le Conseil l'a rappelé dans la décision sur le discours d'Éric Zemmour à la Convention de la droite, la liberté d'expression, oui, la liberté éditoriale, oui, la polémique, oui, on est au pays de Voltaire, le débat doit pas être aseptisé. La France est assaillie de questions, de problèmes, c'est normal que ces questions soient nommées, soient évoquées, que le débat puisse avoir lieu dans les médias. S'ils n'ont pas lieu là, on ne sait pas où est-ce qu'ils auraient lieu. Mais il y a des limites, ces limites ce sont celles qui sont posées par la loi, et dès qu'on rentre dans la violation d'un principe posé par la loi, que ce soit l'appel à la haine ou à la discrimination, eh bien à ce moment-là, le CSA interviendra. Donc il y a un équilibre très subtil à établir chaque fois dans les deux cas. C'est pas de la prudence. Hein. Le collège est tout à fait déterminé sur ces positions-là, mais il faut avoir des positions qui soient proportionnées et adaptées en tenant compte de ces contraintes juridiques que j'évoquais.
Zoé Sfez.
Deux questions justement sur ce discours de Éric Zemmour à la Convention des droites. Comment est-ce que vous lisez que ce soit le fait que ce soit LCI, qui est la concurrente directe de CNews, qui ait décidé de diffuser son discours dans son intégralité? Et surtout, deuxième question, on parlera tout à l'heure du respect des temps de parole des politiques, notamment en période de campagne présidentielle ou municipale, de campagne politique en général. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de statut de quelqu'un comme Zemmour avec cette création finalement de ces dernières années en France, le statut de polémiste qui fait de ces hommes qui sont à la fois engagés politiquement et ne le sont pas, ne sont pas avec des étiquettes. Comment est-ce que le CSA peut aborder cette question à l'émergence de ces figures-là qui finalement occupent presque plus de temps de parole aujourd'hui dans les médias que les politiques?
Alors c'est la lecture qu'effectivement LCI a fait quand ils ont monté cette émission dans le format qu'ils ont retenu, c'est de considérer que finalement Éric Zemmour faisait partie du paysage politique. Et donc ils ont monté cette émission comme ils l'auraient fait avec un élu de la République ou un représentant d'un parti politique. Mais à ce stade, ce n'est pas le cas. On lui a proposé de rentrer en politique. Madame Le Pen lui avait proposé d'être sur ses listes. Et il avait décliné. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on a considéré que le format qui avait été adopté, qui est sans équivalent, c'est la première fois qu'on donne une tribune de plus de 30 minutes à quelqu'un qui n'est pas engagé dans une formation politique, n'était pas un format adapté parce qu'il ne permettait pas d'assurer la maîtrise de l'antenne. Et d'ailleurs, on a constaté que le discours d'Antoven qui est passé lors de cette convention n'a pas, lui, été retransmis. Mais c'est vrai, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la question du pluralisme et de savoir si cette émission-là, avec sa tonalité, était de nature à remettre en cause la façon dont la chaîne respectait le principe du pluralisme. C'est un point auquel on sera attentif.
Emmanuel Paquette, toujours sur l'actualité.
Oui, alors cette semaine, Disney a lancé son service Disney+, qui est une nouvelle plateforme, ce qu'on appelle en Europe SMA, de services multimédia audiovisuels. Donc c'est aussi une plateforme qui arrivera en mois de mars en Europe, même si elle est déjà présente aux Pays-Bas depuis le 12 novembre. En 24 heures, 10 millions de personnes se sont enregistrées sur cette plateforme. Donc c'est
24 heures.
Ouais. En 24 heures, alors que les analystes attendaient 8 millions d'abonnés d'ici à la fin de l'année. Mmh. Et surtout, Disney pariait sur 20 à 30 millions d'abonnés d'ici à 2024. Donc Disney devance largement ses objectifs. Comment vous allez pouvoir gérer un tel tsunami de cette demande, de cette offre de médias audiovisuels qui arrive bientôt en France, puisqu'aujourd'hui on a déjà Netflix, Apple TV+, et puis bientôt donc effectivement Disney+, et puis probablement HBO Max aussi.
Je crois qu'on est au début de l'onde de choc. Ça va être une onde de choc considérable pour le paysage audiovisuel. Ces acteurs sont d'une puissance financière absolument colossale, avec une capacité d'investissement dans la création quasiment sans limite, si je peux employer cette expression, et avec une force technologique qui est absolument considérable. Les algorithmes, Aurélie pourra en parler savamment, qui sont remarquablement faits. Alors aujourd'hui, ils interviennent sur le marché domestique, ou en tout cas certains ont déjà commencé à intervenir sur le marché domestique, c'est le cas de Netflix. Ils sont soumis, comme vous le savez, à aucune obligation du pays de destination. C'est la règle qui est actuellement en vigueur. Et donc, on a une situation d'asymétrie concurrentielle caractérisée avec d'un côté des acteurs historiques qui sont soumis à un cadre fiscal, social et surtout à des obligations de financement de la création très importantes et qui ont en face d'eux des concurrents, 6 millions d'abonnés pour Netflix cette année, excusez du peu, considérables. Et donc, l'enjeu central du projet de loi audiovisuel à venir, avec la transposition de la directive SMA, c'est ça, c'est de rééquilibrer cette asymétrie concurrentielle.
Mais alors, comment obliger ces acteurs-là à respecter le droit? Contrairement aux chaînes, parce que les chaînes de télévision aujourd'hui, on leur donne un bien public, qui sont des fréquences, et donc, au regard de ces fréquences qui sont données, qui sont un bien public, il y a des obligations. Or, ces acteurs-là n'ont pas de fréquences, mais sont soumis à obligations. Alors, donc, est-ce que ça ne crée pas une nouvelle asymétrie, si je me mets du côté des plateformes américaines?
Bien sûr. Ce que prévoit la directive SMA, il faut le rappeler, c'est que donc en matière d'obligation de financement de la création, par dérogation au droit européen, on aura la possibilité d'appliquer les règles du pays de destination. Donc Netflix a beau être installé aux Pays-Bas, il diffuse en France, il touche environ 6 millions d'abonnés. Et donc, au regard de la loi, on sera en mesure de conventionner Netflix et dans cette convention de lui imposer des obligations de financement. Deuxième obligation que prévoit la directive SMA, c'est des quotas d'exposition d'œuvres d'origine européenne. La directive prévoit un socle minimum de 30%. Là, c'est un peu compliqué, mais c'est la règle du pays d'origine qui continue à s'appliquer. Donc, c'est les pays nationaux d'implantation de ces plateformes qui créeront ces quotas, et c'est les régulateurs nationaux de ces pays qui s'assureront qu'on le vérifie. Moi, j'ai pas de raison de penser à ce stade que les plateformes ne joueront pas le jeu du droit français. Plusieurs d'entre eux se sont déjà exprimés publiquement à plusieurs reprises. J'étais encore la semaine dernière à Dijon, rencontre de l'ARP avec les représentants de Netflix, qui ont très explicitement dit publiquement à la fois qu'ils participeraient aux négociations interprofessionnelles et qu'ils respecteraient la règle du jeu française. Donc à partir du moment où ils seront rentrés dans une logique de conventionnement pour la partie financière, soit ils respectent leurs obligations, soit ils les respectent pas. S'ils les respectent pas, c'est la loi de 86 qui s'appliquera et les mécanismes de sanctions qu'on a évoqués tout à l'heure. Là où il y a un sujet, c'est s'il y a un refus de conventionnement, effectivement, de cet acteur. Et c'est un des points que nous soulevons dans l'avis que nous venons de rendre au gouvernement. Nous souhaitons que le projet de loi soit renforcé sur ce point pour que, notamment, nous ayons la faculté de saisir un juge pour demander à un distributeur d'interrompre la distribution d'un acteur qui ne se conformerait pas à cette obligation.
Couper le signal, quoi. Comme en Chine.
Par l'intermédiaire d'un juge.
Ce qu'on fait dans les cas de pédophilie et terrorisme.
Par l'intermédiaire d'un juge.
Vous pensez que c'est proportionné?
Je crois que c'est proportionné. Le seul point qui est, pour le coup, alors vraiment est difficile et à ce stade sans réponse, c'est la diffusion sur l'Internet ouvert. Ce qu'on appelle l'OTT, sur lequel, alors là, pour le coup, effectivement, on ne voit pas bien les dispositifs juridiques qu'on peut imaginer. Mais c'est, voilà, la loi européenne est celle-là. Elle sera déclinée dans le droit français aujourd'hui, et donc c'est normal qu'elle soit appliquée.
Pour terminer cette actualité assez riche cette semaine, le Français Thierry Breton, dont la nomination a été validée à la Commission européenne, et notamment il s'occupera de numérique, c'est bien?
Écoutez, c'est un très bon connaisseur de l'économie numérique, c'est un très bon connaisseur des questions audiovisuelles auxquelles il s'intéresse lui-même depuis longtemps. Donc avoir un portefeuille aussi important détenu par un patriote, c'est effectivement important parce qu'on est à un moment où très vraisemblablement cette Commission européenne va être en initiative dans le champ numérique. On parle d'une éventuelle révision de la directive e-commerce notamment. Et donc avoir une personnalité de cette envergure est important pour nous.
Ça peut être un bon duo avec Margret Vestager qui a fait d'ailleurs la une du Point la semaine passée.
Ça peut faire un duo redoutable.
À quand Rome à la une de l'Express ou de l'Obs?
Écoutez,
on vous appelle pas Rome en fait.
C'est pas moi qui en déciderai.
Écoutez, Rome pour Olivier Mestre, voilà. Faut le rappeler.
À suivre. Allez-y, pardon.
Notre ambition, si on en a une, en tout cas, elle est partagée par le collège et les services du CSA, c'est de faire rentrer ce régulateur vraiment dans le 21e siècle. Et en l'espace d'une année, puisqu'on arrive déjà une année, c'est quand même pas banal. Moi, j'ai jamais connu ça en 40 ans de service public, de vivre une directive européenne et trois textes de loi qui intéressent la même institution. Donc c'est vraiment en l'espace d'une année un régulateur qui est en train de muter.